Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël. Qu'est-ce qui se passe, Kev?
L'ordinateur est gelé, man!
OK. Mais c'est parce qu'il fait froid dehors. Oh, Fred, on commence en force. Oh, la force! On commence en force de Montréal. Hey, un deuxième, j'en ai fait deux.
Moi, je préviens les gens, là. J'ai la mèche très, très courte aujourd'hui.
Contrairement à beaucoup. Oh! Hey, sans restriction, t'en as pas eu un nouveau? C'est Joshua Roy, c'est le dernier, je me trompe-tu?
Oui.
OK.
Non, c'est Nicolas Baudin, excuse. Ah. On l'a pas encore posté.
Nicolas Baudin?
C'est top 5 des meilleurs podcasts qu'on a jamais fait.
Ah, un autre.
Hands down.
Il y a au moins 20 podcasts dans ce top 5-là.
Nick était tellement wild, il est blessé. Ouais. Fait que lui, il est pas sur la route, là. Fait que lui, ça bat les couilles, là, en ce moment-là. Yo, Nick était wild, puis j'ai été capable de connecter avec lui. Puis quand Nick a compris que j'étais président de l'équipe, mais pas juste président, mais aussi GM, c'est une des meilleures réactions. Parce que là, j'y explique que je t'allais faire du scouting, il dit, toi, ça! Puis un jour, je vous conterai l'histoire de scouting.
Good. Butch Bouchard en librairie.
La 8e avec du
monde. Non, tu me gosses. Honnêtement, tu me gosses.
Mais non, la fin d'André le géant, c'est pas le 27, c'est le 28. T'as fait combien de tweets? T'as-tu compté?
J'ai fait un tweet. Puis deuxièmement, je le disais pas comme tu viens de le dire. Là. J'ai même envoyé un email à WWE pour être sûr qu'il y ait la bonne date. Ils l'avaient sur leur site web, ils l'ont changé parce que je leur ai déjà envoyé des courriels dans le passé.
Oh,
et ça s'est bien passé, à part Bully Ray, là.
Yo, laisse ma main Bully tranquille, là.
Pourquoi on a de la musique qui a joué, là?
Parce que j'ai fermé mon ordi avec mon doigt, parce que c'était gelé.
Mais Bully Ray qui... Puis là, il y a quelqu'un qui a répondu vraiment violemment à mon tweet de dire c'était le 28, pas le 27. Il a vraiment fait comme... shut the fuck up!
Non!
Et c'est comme... J'étais comme... Ben, pourquoi tu me réponds avec autant de violence? Pourquoi autant de haine? Il dit, c'était pas haineux. Ben, tabarnouche, va relire ton tweet.
Yo, anyways,
ça s'est bien passé, somme toute. Et puis, le but, évidemment, c'était d'honorer la mémoire du géant. La force à Saint-Jérôme.
Yeah!
En fin de semaine.
En plus, là, je reçois les jerseys demain, là, commémoratif pour Kate. La reconnaissance des communautés, des Premières Nations.
Des Premières Nations, oui.
Donc, puis tous les fonds des Jersey vont à Brooke Stacy. Pas à Brooke Stacy, excuse-moi, à une fondation que Brooke Stacy a choisie. On va dire ça comme ça.
Oui, parce que Brooke Stacy, c'est une Georgia Force. Qui est, ben oui, exactement.
Et Kanawake débarque en force à ce match-là. Parce que pour de vrai, je suis vraiment impressionné de la vente des billets pour ce match-là. Puis
moi, j'étais impressionné comment tu sais. Tu parles, mais pas devant ton micro.
Je fais ce que je veux.
C'est le samedi, on répète les dates. Samedi, le 4 février à 14h.
À 14h.
Dimanche, le 5 à 13h.
Tout le monde vient. Puis, non, ça va être le fun. Soyez là, c'est deux points extrêmement importants au classement pour nous.
Trois points. Voyons.
Notre saison se joue en fin de semaine. Mm-hmm. On se le cache pas, là. Donc, puis nos blessés reviennent.
Oui.
Puis nos gens qui étaient pas là reviennent. Donc, à part une personne qui ne revient pas, tout le monde revient. Donc, yeah.
Good. Les Antipodes de la lutte live 3.
OK, yo!
C'est samedi 18 février, 15h30, de 15h30 à 17h. Les portes ouvrent à 15h. Billet seulement 10$. Et on est rendu.
Non, mais faut que je me fâche.
Pourquoi?
Parce que à chaque fois que je me fâche, on vend les tickets.
Non, mais je comprends, mais on est rendu à quoi? Plus de 100 billets
vendus. On est rendu à 106.
106 billets.
106 billets.
Alors, dépêchez-vous, là. On n'a pas encore annoncé un invité en plus.
Non. Parce que là, je me suis fâché la semaine dernière. On était quoi? 69? 65?
À peu près, là. Je m'appelle plus.
Si c'était 69, je m'en serais rappelé.
71.
T'es sûr?
C'était 69 plus 2 gratuits.
OK, 71, whatever.
Ouais, Fred est d'accord.
Donc là, on a vendu 30 billets en une semaine.
Oui.
On peut faire mieux!
Absolument.
On peut faire mieux, peuple.
Surtout, tu y croyais pas, toi.
Non, zéro. Anti-fans. Là, j'adopte votre nom. Anti-fans. Soyons nombreux.
Mais on est déjà nombreux. Soyons fermés.
Moi, je veux là qu'on soit tellement de monde que j'amène le caméraman pour venir filmer l'événement puis qu'on fasse un montage pour nos réseaux sociaux.
OK, cool.
Moi, je veux qu'on soit tellement de monde que TVA Sports fasse « Holy shit! » OK, les boys, ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent dans le monde de la lutte. Je veux qu'on soit tellement de monde que les gens reconnaissent la lutte comme étant quelque chose qui peut attirer des gens autre chose que pour les matchs en soi, mais pour des événements quelconques, pour qu'on en fasse plus souvent des antipodes ou des antipodes devant public live, là, puis qu'après, l'année prochaine, on soit rendu à 4, 5, 6, 7. Moi, je veux qu'on aille à Tombouctou. Je veux qu'on aille en Abitibi. Je veux qu'on fasse une tournée.
Fait, finalement, c'est...
Je veux!
Tu veux qu'on fasse la première partie de la tournée d'Elias? Pour ceux qui nous écoutent à TVA Sport.
Je veux qu'on soit tellement de monde qu'ils soient obligés, guys. Là, avec 106, là, les gens, ils ont ouvert les yeux parce que là, ils font « Oh, shit! » Si on a 172 personnes, si on est à guichet fermé, si on poste une photo, guichet fermé, les gens vont tellement caca sur eux qu'il n'y aura pas assez de papier de toilette pour les essuyer. Soit achetez vos goddamn billets. Merci.
Puis dépêchez-vous parce qu'il y a quand même une limite, là.
C'est 172.
On pourra pas avoir tout le monde, là. Hey, je veux, juste avant de commencer les nouvelles, je veux prendre le temps de remercier tous les employés d'Air Canada qui nous écoutent. Et qui ont communiqué avec moi pour essayer de m'aider. Puis malheureusement, il n'y a vraiment rien à faire. Alors, il faut que j'espère qu'il y ait un changement dans le vol significatif pour qu'on puisse m'offrir un remboursement ou un crédit.
C'est ma seule
option.
C'est dead.
Alors, maintenant, je suis à la recherche de quelqu'un qui peut justement faire en sorte que le vol puisse être retardé.
Ouais, fais attention à ce que tu demandes.
C'est un bris mécanique, mettons.
Non, on va couper ça. Hey.
On va couper ça. Non, je fais des farces, évidemment. Mais c'est ça. Mais écoute, sinon, j'aurais perdu cet argent-là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Yo, j'ai pris un billet d'avion aujourd'hui pour aller à Toronto, là, pour la game de la Force la semaine prochaine. Puis j'ai pris assurance annulation avec satisfaction.
Ben oui, mais je comprends.
C'est tout.
Je comprends. Merci de me le rappeler. Les nouvelles. On va faire un retour sur le Royal Rumble et comme il est populaire sur les antipodes, ben on va le faire avec notre ami, notre collègue Bertrand Hébert. Alors, Bert, très content de te retrouver avec nous la première fois pour l'année 2023 pour parler évidemment du Royal Rumble. Premièrement, la question que j'ai pour vous deux, à toi et à Kevin, mais on va commencer par toi, Bert. Tes impressions générales du Royal Rumble, t'as aimé, t'as pas aimé, qu'est-ce qui en a découlé de ça?
Ben moi, je suis plutôt tiède.
OK.
Peut-être que mes expectations ou mes espoirs étaient un peu plus hauts que qu'est-ce qu'on a eu. Je trouvais que au final, on a eu des gros punch-out, mais on n'a jamais eu une constance tout au long du show, là. Donc, pour moi, là, c'est ça, très tiède.
Toi, mon Kev?
Écoute, somme toute, j'ai trouvé que c'était un bon pay-per-view. La fin a sauvé le pay-per-view, en fait. Là. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de problèmes techniques ou de problèmes... Là, je vais peut-être rentrer dans les termes plus techniques, mais des problèmes de découpage. On a manqué énormément de spots, autant dans le Royal Rumble masculin que dans le Royal Rumble féminin. Je trouve que la façon qu'ils ont filmé l'entrée, là, ou parce qu'ils voulaient montrer l'ampleur puis tout, ça l'a enlevé à... Moi, ça m'a vraiment turn off, là, parce que j'étais comme, mais pourquoi qu'on voit pas le match? Montre-nous les faces des gens. Pourquoi tu nous montres la fucking rampe que c'est un L? On l'a vu, la rampe, 100 fois. Moi, l'entrée des gens, puis retourne dans le ring. Fait que ça, c'est des petits détails qui m'ont gossé, mais somme toute, c'était booké bien. Kofi Kingston, là.
Ben, on va rentrer dans le détail. On va rentrer dans le détail.
Kofi, là.
Premièrement, Pat McAfee. On a ouvert le show avec Pat McAfee.
J'ai adoré parce qu'il y a eu un méga pop.
Il y a eu un pop, puis de ce qu'on a su par la suite, Michael Cole était même pas au courant que Pat McAfee revenait. Il s'était parlé dans la journée, en plus, et McAfee l'avait vraiment tenu dans le noir là-dessus, donc ça a été une belle surprise.
On aurait dit que même McAfee savait pas qu'il faisait le show.
Ouais, moi je pense que c'est juste ça.
Moi je pense que McAfee a juste pas suivi le produit depuis qu'il est parti, donc...
Oui, ça a paru.
Ça a paru.
Oui, mais
ça a paru.
En même temps, il l'a accusé. Il a pas fait semblant. T'sais, Jerry Lawler, il vient faire les shows, il fait semblant de connaître le produit, puis on est comme dude. Genre, on sait que tu l'écoutes pas. Pat McAfee, il, clairement, là, il est arrivé sur sa chaise, puis il est comme, moi, j'ai fait du college football pendant 3 mois, gars. Je sais pas qu'est-ce que je fais ici. Puis moi, j'ai. Puis sa petite touche de bon enfant, là, dans. Ouais. Je trouve que ça atténuait Corey Graves, puis ça élevait Michael Cole, puis je trouve que c'était le meilleur three-man boot qu'on a eu depuis très longtemps.
Ben en fait, je pense que ce qui a été le fun, c'est que ils ont pas juste fait McAfee Michael Cole, parce que là ça aurait paru encore plus que McAfee avait pas suivi le produit. Ouais. Donc t'avais Corey Graves, t'avais Michael Cole, puis t'avais McAfee qui venait puncher un peu plus. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'énergie de McAfee, elle est contagieuse, ouais. Parce qu'à un moment donné, les trois étaient rendus debout.
Ouais.
Puis ça, t'aurais jamais vu ça, Michael Cole se lever comme McAfee a fait. Même Corey Graves ne fait pas ça habituellement. Alors, ça j'ai trouvé qu'il y avait une belle énergie là-dedans.
J'ai une question, moi.
Oui.
J'ai-tu manqué Shinsuke Nakamura?
Je pense qu'on est toujours. Il n'y a pas de Nakamura nulle part depuis
non, mais au Japon. On a eu le Royal Rumble.
Oui.
On s'entend, il est en santé, il s'est battu contre l'autre, là. Peut-être qu'il y a eu des nouvelles, peut-être qu'il y a des choses qu'on sait pas, là. Mais comment ça se fait que Nakamura était pas dans le Royal Rumble?
C'est une bonne question.
Pis ça, c'est pour moi.
Est-ce qu'il est blessé?
Ben, moi, j'ai pas été capable de voir s'il était blessé ou whatever. Fait que dans ma tête, s'il y a une situation qui est arrivée, on est juste pas au courant. Mais non seulement on le voit plus à la télévision, on l'a pas vu dans le Rumble. Moi, dans ma tête, j'étais comme, ah, il va ramener Nakamura dans le Royal Rumble. Ça va être une surprise entre parenthèses. Puis il va recommencer à le builder, peut-être donner un programme. Le patinet, on l'a pas vu.
Est-ce qu'on l'a pas vu depuis son match avec Great Muta?
Ben, on l'a pas vu depuis qu'il est revenu du Japon, ça c'est certain. Puis avant même le match avec Muta, on l'a pas vu tant que ça dans la dernière année, là, après la blessure de Boogs.
C'est intéressant. Tu vois, il a lutté, effectivement, depuis Muta, il a lutté le 21 et le 22 janvier dans des house shows contre Imperium en équipe avec Madcap Moss et Braun Strowman.
Donc, il est correct pour lutter. Donc, qu'est-ce qu'il faisait ne pas être dans le Royal Rumble?
Ben, il est correct pour lutter, à moins qu'il se soit blessé lors de l'un de ces deux matchs-là.
Ah, okay,
mais
ouais,
sinon, mais c'est pas sorti. Effectivement, c'est pas sorti. Premier match, on a ouvert avec le Royal Rumble. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Bert? Royal Rumble, de façon générale, un bon, un mauvais, un tiède?
The Island of Irrelevancy.
Ah, oh, ouais, t'as trouvé?
Ah, je suis pas d'accord.
Jusqu'au numéro 21, il n'y avait aucune chance qu'il se passait de quoi d'intéressant ou de pertinent avec le finish. Sketch par-dessus sketch, par-dessus sketch, par-dessus sketch.
OK.
Avec le finish. Parce que la fin, c'est qu'on savait tous que Cody gagnait. Ça, c'est en partant, là. Fait qu'il n'y a rien qui aurait pu arriver dans tout le Rumble pour nous dire que Cody allait. Que le finish allait changer tant que Cody n'était pas arrivé. Mais moi, je trouve que quand Brock est rentré, ça a changé la dynamique un peu. Il n'est pas resté longtemps. Mais quand il est rentré, ça a changé un peu la dynamique. Je trouve que
Goon. Il a fait son sketch avec Bobby Lashley.
Mais au moins, moi, je trouve que ça a donné un élément intéressant à regarder dans le Rumble.
Oui, mais dans la cohésion du match, puis avoir l'impression que je regarde un match où chaque moment a un impact sur qui va peut-être gagner, je pense qu'on n'a pas vraiment frappé dans cette talle-là dans les Royal Rumble depuis un certain temps. Puis là, cette année, par bout, là, c'est comme, OK, c'est sûr que lui gagne pas, c'est sûr que lui gagne pas, c'est lui qui a OK. Puis même Gunther, là, il a été jusqu'à la fin, mais probablement à cause que c'était la même storyline avec Ripley dans l'autre match, on n'a pas trop insisté sur le fait que Gunther était peut-être un favori à un certain point, jusqu'à temps d'arriver vers la fin. Donc, ça, en tout cas, moi, j'ai eu l'impression là, qu'on attendait que les derniers gars arrivent pour avoir le vrai match.
Moi, je vais vous dire ce que j'ai aimé du Royal Rumble. Ce que j'aime du Rumble, c'est les histoires qu'on crée dans le match, ou les possibles rivalités qu'on crée au courant du match, et essayer en même temps d'avoir un fil conducteur quelconque. Le fil conducteur dans le match, c'était Gunther. Il a été là tout le long, puis je pense qu'un des points positifs, c'est que je pense qu'on a élevé Gunther avec ce match-là. En plus, on a quand même créé des matchs. Ben, Brock avec Bobby Lashley.
Seth Rollins, Logan Paul.
Il y avait également.
Puis Logan Paul nous a donné un beau moment avec Ricochet. Tu sais, moi j'ai pop là, j'ai fait. Qu'est-ce qu'ils font, les imbéciles?
Un moment qui. Ben oui, c'est un move qui fait pas de sens quand tu y penses.
Il fait pas de sens le move, mais c'était pas un.
Mais c'était spectaculaire.
C'était un moment.
Oui.
C'est un moment qu'on va que j'ai encore dans mon téléphone 3 jours plus tard, là, qui sont postés par toutes les chaînes sportives. Puis c'était ça le but de ce moment-là. C'était pas de faire comme les fans de lutte vont triper dessus. Puis même les fans de lutte ont trippé sur le moment.
Puis en plus des deux autres, on a également eu Braun Strowman avec Omos. Puis on a également Edge avec le jugement, avec Judgment Day.
Ouais.
Fait que, tu sais, il y a quand même eu des rivalités ou en tout cas des possibles pistes qui peuvent aller jusqu'à WrestleMania dans ce match-là.
Ça l'a répondu à beaucoup. Ben, pas ça l'a répondu. Ça l'a provoqué beaucoup de choses. Tu sais, il y a des Rumble qui étaient comme, il s'est rien passé dans tout le Rumble parce que le Rumble, c'est long. Mais, puis je comprends ton point, ça n'a aucune incidence avec le finish, mais il n'y a pas beaucoup de Rumble qu'on est comme, ben, il y a 10 personnes qui peuvent le gagner. Tu sais, on est tout le temps genre, ben, il y en a 3 ou 4. Puis là, cette année, malheureusement, la façon que ça a été fait, c'était un. Il y en avait juste un qui pouvait gagner le Rumble. Fait.
Moi, ce que j'ai pas aimé, par contre, c'est je trouvais que c'était un peu anticlimatique.
De l'avoir 30?
Ben, avoir le heel sortir premier et faire le Rumble au complet, puis d'avoir le babyface sortir numéro 30 puis gagner. Habituellement, ça aurait dû être l'inverse. On a le heel qui arrive en dernier parce que, bon, il va le gagner en ayant passé le moins de temps dans le ring, puis on a le babyface qui, lui, est là tout le long, puis là, tu veux prendre pour lui parce que, crime, tu veux qu'il gagne après avoir passé 71 minutes dans le ring.
Je trouvais ça lame qu'il sorte 30. Ça, je le donne, là.
C'est le seul bémol que j'ai à apporter à l'histoire qu'on a racontée. Par contre, tu sais, je suis d'avis aussi que, Bert, tu pensais-tu vraiment que quelqu'un d'autre que Cody allait gagner?
Ben, dans un monde idéal, je veux que tu me donnes l'option d'y croire. Je veux que tu me donnes l'impression que j'attends pas que le 30e arrive pour avoir le gagnant puis le finish. La grosse fin, le Gunther puis Cody, ça a super bien sorti.
Ouais.
Tout ça, on est d'accord, mais en même temps, la cohésion du match faisait que j'avais l'impression de regarder justement des setups par-dessus setups pour quelque chose d'autre plus tard, mais qui n'avait pas vraiment un impact dans le match que j'étais en train de regarder. Là.
Est-ce que le manque de surprise, parce que c'était un commentaire que j'ai lu souvent, moi personnellement, les surprises, ça me dérange pas. Toi, ça va déranger, Bird, de ton côté?
Ben, c'est toujours le fun quand il y a une vraie bonne surprise. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je me serais peut-être même passé de Booker T à la limite.
Oui, je suis d'accord.
Ben, je trouve pas que ça a été négatif.
C'était pas négatif, mais c'était pas nécessaire. À ce compte-là, mets quelqu'un.
Non, mais il y a eu un pop. Tu sais, mettons, Royal Rumble, tu veux tout le temps 3 ou 4 surprises. Là, ils en ont mis une. Je pense pas qu'on peut chialer sur Booker T, là. C'est le dude de NXT. Tu promotes NXT en même temps.
Ouais.
Il y a eu un pop. Ouais. Il est dans son state en plus.
Ben, c'est le fait qu'il est dans son état natal que ça, j'étais plus à l'aise, mais en même temps.
C'est pas utile pour personne.
Non.
Pour moi, là, Bron Breakker ou n'importe qui d'NXT aurait fait.
Il n'y aurait pas eu le même pop que Booker T.
Il n'y aurait pas eu le même pop, mais ça lui aurait donné au moins une visibilité dans un gros pay-per-view.
Est-ce que Roxanne Perez est plus over parce qu'elle est allée dans le Royal Rumble qu'elle était la semaine d'avant?
Il y a plein de monde qui l'ont découvert.
Il y a plein de monde. Moi, il y a du monde, tu vois, j'avais beaucoup de gens chez nous, puis il y a du monde qui faisait, mais c'est qui elle? Ah, c'est Roxanne Perez, c'est la championne à NXT. Fait que là, son nom au moins, il est connu de ces gens-là maintenant.
Ouais.
Fait que tu sais, non, mais après ça, t'entends son nom, tu la vois arriver à Raw à ce moment-là. Ah oui, ok, c'était la fille du Royal Rumble.
C'est dans le sens que le Royal Rumble est reconnu pour mettre les surprises, ils en ont mis juste une. Je pense qu'on peut quand même laisser aller.
Ils en ont mis deux. Logan Paul, c'était une surprise aussi.
Mais Logan Paul, pour moi, c'est un staff actif, là.
Il était pas annoncé, puis on pensait pas qu'il était prêt à être dans le Rumble.
Je comprends,
non
mais
plus.
Il avait juste annoncé 20 noms, là. Fait que pas 10 surprises.
Les deux spots où Logan Paul, il s'est fait dire quoi faire tellement fort que même moi, je l'ai vu.
Ah non, j'ai pas remarqué. Pas
avec Gunther, puis avec Sheamus, là, il y a deux fois, là, c'est comme. Puis là, il avait comme les yeux carrés comme un. un cerf sur l'autoroute qui est sur le bord de se faire frapper, là. Y avait bien du monde que sûrement qui n'avait pas eu le temps de pratiquer avec, au contraire, ouais, que d'habitude, là.
Ouais, non, non, mais c'est sûr que Logan Paul, dans un monde idéal, faut qu'il pratique ce qu'il va livrer par la suite. Un Rumble, c'est peut-être un peu plus difficile. Kofi Kingston, Kev, t'en parlais tantôt. Ça fait, toi, 2 ans en ligne, deux manques ans, son spot.
Mais, c'est mais... temps de retirer le spot.
Non, mais moi, je veux qu'il manque à chaque. Je veux qu'il manque l'année prochaine.
Oh.
Parce que quand il va l'avoir, ça va être le long story build de Kofi Kingston qui est back.
Okay, là, il a failli se faire mal.
Là. Ouais, ouais, mais, non, non. Ouais, mais c'est spot. Le spot qu'il avait essayé l'année dernière, parce que je suis retourné l'écouter,
ouais,
c'est très ambitieux pour l'âge que Kofi est rendu, je pense. Mm. Puis de faire confiance à une chaise.
Oui, une chaise sur roulette.
Qui y a personne qui la tient parce que non. Xavier Wood, il était pas là partout. Là. C'est audacieux.
Kofi avait prouvé en début de show que c'était peut-être dangereux comme concept. Là.
Mm-hmm.
Moi, honnêtement, le Rumble, sérieusement, je vais aller, je l'ai écrit, je vais aller jusqu'à dire que c'est un des meilleurs Rumble masculins que j'ai vu.
D'accord. Ah non, pas un des meilleurs. Wow.
Ben, moi, personnellement, là, c'est un des top 5 Rumble masculins que j'ai vu.
Top to bottom?
Non, non. Le match Royal Rumble, oui, pas le pay-per-view.
Du début du Rumble jusqu'à la fin
moi,
du Rumble.
Moi, j'ai adoré qu'on mette Gunther over. On en a fait une star avec non, ce
c'est
match-là.
C'est un élément, maintenant. Je suis pas d'accord avec ça.
Il y a 5 matchs qui se sont créés à l'intérieur du Rumble. Pour moi, une bataille royale, c'est à ça que ça sert. Surtout cette année où on savait que Cody était pour gagner. Alors, si on sait que Cody va gagner, ça me dérange pas.
Non, mais c'est ça le problème. C'est parce que ça avait de l'air de ça.
Mais ça me dérange pas parce qu'on était ailleurs. On m'a donné d'autres choses. On m'a donné des face-à-face. On m'a donné un edge, par exemple. On m'a donné...
Exact. On t'a donné un paquet d'angles dans un match qui devrait avoir des angles par accident et non pas parce qu'ils sont planifiés. Tout avait de l'air planifié de A à Z. OK, premier segment, deuxième segment. OK,
donc... Mais ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé parce qu'on m'a donné quelque chose. Moi, on m'a donné quelque chose dans ce match-là. Dans un match où on m'a rien donné, Bray Wyatt qui a battu LA Knight. OK.
Là, il faut dire les vraies affaires.
Oui, vas-y.
OK. Bray Wyatt. OK. Je l'aimais même quand il s'appelait Husky Harris. J'ai toujours trouvé qu'il avait un charisme spécial. Il y avait quelque chose là. Mais là, il faut que quelqu'un le prenne par la main et il dise, là, écoute, dude... Écoute-moi. Parce que là, ça n'a pas de bon sens. Là. Je veux dire, c'est bien beau se réinventer, mais c'est parce qu'il ne faut pas que tu deviennes prisonnier du fait que tu veux te réinventer absolument. Là. Parce qu'à un moment donné,
ben,
c'est bien beau vendre des gimmicks puis avoir des entrevues. Il va falloir que tu nous livres un match quelque part qui va avoir du bon sens. Là.
Je pense qu'il est pris dans un tourbillon de... comment dire... On l'a tellement applaudi pour sa créativité au courant des dernières années qu'il essaie de repousser les limites de la créativité, puis que là, il est juste tombé dans de la marde, là. Puis là, il est pris dans
sa propre prison lui-même.
Là. Ouais, puis je pense qu'il est pris dans sa tête. Là, l'autre affaire, là, quand j'ai vu que c'était commandité par Mountain Dew, là...
Ouais.
Oh.
Mais en fait,
non, oui, mais on dirait que j'avais pas réalisé à quel point Mountain Dew.
Ouais, mais il y avait pas de zombies au ringside, fait que moi je peux prendre le Mountain Dew.
Je vais prendre Mountain Dew avant les zombies, je suis d'accord aussi.
Sûr, sûr.
Mais on aurait dit un match entre Jeff Hardy et Naomi. Là.
Ah, c'était épouvantable.
Oh, bon Dieu.
Tu comprends pas dans le sens, dans le terme du match, mais dans le sens que c'était juste, ouais, c'était juste du fluorescent. Là, c'était
moi,
ça.
Je comprends. Vas-y.
Si on nous aurait dit au début, ah, ça va être un match en blacklight, on aurait dit, OK.
Ben
là, ils ont fait une grosse affaire, puis là, ouais, OK, c'est un match en blacklight, tout le monde, les confettis verts qui sortent de nulle part.
Ah.
Visuellement, c'était beau. Mais je veux dire, il faut que tu me donnes de quoi, là. Ça a l'air que live, les gens voyaient rien.
Ouais. Ben, sûrement. Sûrement. Comme la majorité de l'histoire des matchs de Bray Wyatt, ouais, live, on voit jamais
on
rien. Voit rien.
Ben, on a bien vu que le gars, il a manqué son spot à la fin, là. Ça, je l'ai
ouais,
bien
ah, mon
vu.
Dieu, mais... Okay. Qu'est-ce que c'était ça? Comment que la production...
Burke vient de faire un AVC!
Comment la production... Parce que là, si on regarde le show là, de A à Z, là, tu peux pas les enlever. Une chose, c'est la production. Je veux dire, la production est presque trop belle, là. C'est smooth. C'est... Puis là, il arrive, puis il y a un spot comme ça qui est quand même une assez grosse cascade. Puis je veux dire, le gars, faut qu'il voyait rien, comme, puis il a été à peu près, comme, puis...
Ah non, non, c'était...
C'est comme, pourquoi, comment on en vient là? Puis c'est quoi le but aussi? Je veux dire, le uncle, il saute du top au travers du stage, puis c'est quoi, c'est fin, on passe à un autre personnage pour vendre d'autres gimmicks? C'est comme...
Ah, je sais pas. Je ben, sais pas.
Ça veut dire au sens, là, on tombe dans... C'est plus de la lutte, c'est vraiment une performance artistique. Puis il n'y a plus de lutte, là. La lutte est même...
Non, mais...
là, plus ça va, moins il y en a, là. Ça a comme pas de bon sens.
Mais j'ai pas la performance artistique, en autant que l'histoire est bonne, puis tu me donnes quelque chose qui est intéressant à regarder. Là, c'était ben, ni l'un ni punch. L'autre. Ben oui, c'était ni l'un ni l'autre ni l'autre.
Non, mais attends, juste dire, là, Bray Wyatt, c'est une entrée. Ce gars-là, c'est une entrée.
Ouais, mais ça peut pas être toujours ça.
Non. Je sais, mais l'Undertaker aussi, c'était une entrée, mais il pouvait
non,
il pouvait
c'était,
il pouvait
c'était,
le backer dans le ring.
C'est plus qu'une entrée. Bray Wyatt est resté à l'étape d'être une entrée. C'est tout.
Mm. Bianca Belair qui a battu Alexa Bliss dans un autre match qui était sans saveur, qui était pris.
C'était un match de Raw.
C'était un match de Raw. Tu sais, tu t'attendais à ce que tu t'attendais. Ben oui, c'est ça. Tu t'attendais peut-être à ce que Bray Wyatt intervienne ou qu'il y ait quelque chose avec ça. Puis non, elle a perdu. Puis tu vois qu'elle fait le pas à la fin, mais on n'a même pas été là encore avec elle. Là. Donc, tu sais, on nous a donné un 8 minutes. 8-9 minutes, je pense, le match a duré. Et c'est un 8-9 minutes qui ne servait pas à grand-chose.
Il n'y avait pas de leader dans ce match-là. Il n'y a aucune de ces deux filles-là qui peut vraiment prendre un match en charge, comme, puis. Tu sais, être la capitaine, puis fait que là, tu sais, c'est comme ça, tout le temps de l'air hésitant, puis c'est... Il y a tout le temps... On sent tout le temps une seconde d'incertitude à quelque part dans l'exécution. C'est ça. Un match de Raw, c'est gentil, là.
Rhea Ripley qui a gagné le Royal Rumble féminin, c'était une autre non-surprise. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas quand c'est prévisible, mais c'est bien fait. Donc, de savoir que Rhea a gagné, ben, pour moi, c'était le choix. Puis si c'est logique aussi, faut que ce soit bien fait. OK, des fois, c'est pas toujours bien fait, mais si la gagnante ou le gagnant, c'est logique. Rhea Ripley, c'était logique. Encore là, on a fait un peu la même chose avec Gunther. On l'a fait partir première et on l'envoie jusqu'à la fin. C'est très babyface comme scénario et pourtant c'est une heel.
Est-ce que Rhea Ripley, parce que là le Royal Rumble féminin nous en a dit long sur la division féminine de WWE. Là je veux juste commencer avec ça.
Ouch, mais oui, d'accord.
La division féminine de la WWE est déficiente en ce moment. Puis il y a deux niveau. Il y a les gens qui peuvent... Il y a trois niveaux. Des gens qui peuvent avoir des très bons matchs, des gens qui peuvent avoir des matchs, et puis ceux que je leur donnerais même pas une poupée dans le ring. OK? Il y a des gens qui avaient pas d'affaires dans le Royal Rumble. OK? Puis, by the way, Michelle McCool.
Oh, mon Dieu.
OK, elle sort de la foule, est avec ses kids.
Elle est en gear!
C'est quoi? T'es avec...
Très show indie.
T'avais pas de gardienne?
Non, mais.
C'est pour ça que t'es dans la foule avec tes kids juste à ton spot?
Non, mais parce qu'elle a réagi comme si elle était surprise que ça tourne part.
Je le sais.
Mais ça veut dire qu'elle, c'est comme si, là, elle est venue voir la lutte, puis ça tourne est partie, puis qu'elle a fait, ben yo, je vais y aller.
Ben oui.
Ouais, non, c'est comme si c'était une surprise pour les enfants, ou je sais pas trop quoi, mais c'était mauvais.
Puis tu sais.
Elle était là longtemps en plus, là.
L'autre affaire, là, c'est. Puis je reviens à ton point du finish, là, OK? Moi, c'est la seule affaire qui m'a turné off. Une des affaires qui m'a turné off de ce match-là. So, on pensait vraiment que Michelle McCool s'en allait à WrestleMania?
Non!
En sortant, elle était assise!
Elle était assise dans la foule.
Il y a des gens qui savaient même pas c'était qui!
Eh oui.
OK, la numéro 30.
Elle est mariée qu'Undertaker. C'est toutes les raisons du monde que t'as besoin. Mmh.
Numéro 30. Naya Jax.
Ah mon Dieu, pis là,
Naya freaking Jax.
Hey, je l'avais calé,
ils ont manqué le timing du buzzer.
Ils ont manqué le timing du buzzer en plus là-dessus. Sa tune est partie, il restait 8 secondes ou 9 secondes au buzzer. Déjà là, elle a fait un fuck-up sans même être sortie des rideaux.
C'est pas de sa faute, là.
C'est pas grave, c'est elle pareil.
C'est pas grave, c'est la
bad. Ben écoute, pis elle a pas été là longtemps.
Puis sa performance, hein, je veux dire, mon Dieu.
Ben non, mais.
Pas, pas plus que ça. Là, si t'es prêt mais... à travailler, reste chez vous.
Quête, les gens sont tough aujourd'hui.
Mais ben non, mais. Puis en même temps, on sait toujours pas si elle a signé long terme ou pas.
Parce on espère que non. On espère, ben,
on espère vraiment que non. Par contre, la WWE a produit de la nouvelle marchandise pour elle.
Mais je veux dire, ça, ça veut rien dire.
T'as raison, mais en même temps, on espère vraiment que c'est un one-shot deal.
Ou un Legend Contract, là, quelque chose comme ça.
Legend Contract!
Je vais prendre Legend Contract au lieu de Talented Contract.
Là, Talent Contract, ouais, je suis d'accord avec toi. J'étais content de voir que Doudrop était revenu à son, son nom de Piper, Niven, qui est un bien meilleur nom pour son personnage.
Ouais, mais elle a-tu bien paru dans le Rumble? Non.
Non, non.
Hey, elle a pas mal paru.
Elle a pas de Nia Jax, là.
Non, non, mais
non, elle a pas de Nia Jax.
Elle arrive, on change son nom, puis c'est sans plus, là. La seule affaire qu'on applaudit de ça, c'est qu'ils ont changé son nom.
Mais c'était quand même mieux que Chelsea Green.
Ouais, mais ça, ça fit avec son personnage, par exemple. Ça me dérange pas.
Je comprends.
Ça fit avec le personnage.
Mais en même temps...
Ça fit avec le personnage, parce que c'est l'élément qui a déclenché que Chelsea Green, c'est Karen maintenant. Puis elle a vraiment bien fait ça lundi. Lundi, j'étais comme, ah, oh, I'm gosse.
Je comprends qu'elle va être une certainement une bonne heel.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Rhea qui, suite au Rumble, choisit Charlotte à Raw dans une promo tellement babyface.
Non, mais ils la bookent en babyface. Est-ce qu'ils se disent...
Parce que, attends une minute, moi, j'étais surpris. Moi, j'étais sûr qu'on était pour envoyer Rhea contre Bianca Belair. Pourquoi? Parce que c'est un match en simple qui s'est jamais fait à la WWE, seulement à NXT. Quand c'est que Rhea Charlotte, on l'a vu il y a 3 ans. Veux pas, on l'a vu à WrestleMania, ce match-là.
Et que... C'est un rendez-vous manqué. Ça s'est fait dans le PC devant personne.
Je comprends, mais en même temps que, Rhea... disent, ben, je veux mon match revanche parce que je suis meilleur que j'étais il y a 3 ans. C'est tellement babyface comme discours, comme scénario. Mais alors, il est la book babyface dans le Rumble, il est la book babyface dans son défi à Charlotte. Je comprends pas, c'est une des meilleures heels en ce moment avec le Judgment Day.
Si tu veux être sérieux, si on veut être sérieux, là, je veux dire, l'albatros autour du cou de Rhea Ripley, c'est le reste de Judgment Day. Là. Rhea Ripley a le potentiel d'être la number one fille de tout le roster. Là. Donc, il n'y a pas mieux qu'un match avec Charlotte Flair pour la propulser vers un autre niveau que d'être avec Judgment Day.
Les gens vont tourner sur Charlotte, puis ça va être Rhea la babyface. Tandis que il n'y a personne qui va tourner sur Bianca Belair.
Ben non, exactement. Tu veux.
Charlotte babyface, c'est pas les Charles en ce moment à SmackDown. Là, fait que ça va se faire naturellement. Là,
puis ils vont le laisser vivre.
Pour la carrière de Rhea Ripley.
Ouais. Mais ils vont le laisser vivre.
Je comprends, mais j'aurais aimé ça voir un nouveau match. J'aurais aimé ça. Charlotte aurait pu avoir Becky ou Bayley puis avoir un gros, gros match. Tandis que là, je trouve que tu nous enlèves Bianca et Charlotte. Tu sais, quand tu disais, Kev, tantôt, il y en a qui peuvent avoir de très bons matchs puis d'autres qui peuvent avoir des matchs. Charlotte est dans la catégorie qui peut avoir des très bons matchs. Ouais. Bianca Belair n'est pas encore dans cette catégorie-là, à moins qu'elle travaille avec une des filles qui sont capables d'avoir des gros matchs. Alors là, t'envoies Rhea contre Charlotte. Ça veut dire que Bianca va lutter contre quelqu'un, puis à WrestleMania, ça sera sûrement pas un excellent match.
Mais ça va être Kana?
Ben, ça va être sûrement Asuka. C'est ça l'affaire.
Ben, ça va être un très bon match avec Kana.
Je le sais pas. Puis encore,
ben oui, ben non, hey, arrête.
T'as raison, ça risque d'être un bon match. T'as raison. Mais ça va. C'est un match. C'est du déjà vu, ça aussi. T'aurais pu avoir 2 matchs féminins qu'on n'avait jamais vus ou quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Mettons Charlotte, Becky et Bayley. Et Rhea contre Bianca Belair, tandis que là, on nous présente encore du réchauffé. On va avoir Asuka contre Bianca, on l'a déjà vu. On va avoir Charlotte contre Rhea, puis on l'a déjà vu. Moi, c'est ce que je reproche au choix qu'on a fait.
J'aime l'idée que c'est un match revanche, que Charlotte était jeune, que Rhea était jeune quand elle a affronté Charlotte. T'sais, tout le monde était comme, ah, pourquoi ils ont fait gagner Charlotte? Là, ça nous donne un peu de long term, de l'histoire à long terme. Fait que, tu sais, moi, j'aime l'idée que ce soit Charlotte, puis Rhea, c'est le plus gros match chez Charlotte, c'est pas Bianca Belair. Le match que tout le monde veut voir et va vouloir en parler, c'est Charlotte. C'est Charlotte, c'est le match.
Mais c'est pas le match qu'on nous tease depuis des mois.
Non, ils l'ont pas teasé depuis des mois. Je l'ai dit la semaine passée, ils ont fait un segment.
Mais oui, je comprends.
Ils ont fait un look, les deux se sont regardés, ils ont plus jamais refait cette affaire-là.
Puis moi, je pense que Bianca est pas de niveau pour aider Rhea à monter à un autre niveau. Fait que là, c'est comme, au mieux, Rhea baisse pas de niveau hein, dans un match comme ça, parce que je suis pas sûr qu'elle peut traîner Bianca à un niveau supérieur non plus.
Qui Charlotte contre qui Charlotte a lutté l'année passée à Mania?
Bonne question.
Parce qu'il me semble que c'était Ronda Rousey, non?
Oui, Ronda Rousey. C'était Ronda Rousey.
Ça avait pas été un bon match.
Non, mais Ronda, c'est un problème.
Ouais, mais c'était pas Charlotte, là.
Je comprends.
Rhea Ripley est devant Ronda Rousey à des millions
d'années. Je suis d'accord avec toi. Je veux juste dire que. Je sais pas. Moi j'ai été.
Pas comparer les deux.
Moi, j'ai été déçu de ça.
Moi, je te prédis que Rhea Ripley et Charlotte vont voler le show.
Ben oui, 100%.
OK. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Puis je dis pas que ça fera pas un bon match. Et je sais pas. J'ai des mixed feelings par rapport à ça. C'est pas la direction que j'aurais été. Puis je suis pas encore capable de penser que c'est une bonne idée. Fait que peut-être qu'en bout de ligne, je vais changer d'idée. Pas pour l'instant. Est-ce qu'on s'entend, les gars, que le Rumble masculin, malgré les discours qu'on a eu tantôt là-dessus, c'était à des années-lumière du Rumble féminin?
Il y avait plus de talent connu au grand public dans le Rumble masculin que dans le Rumble féminin. Rumble féminin, à un moment donné, tu faisais comme quête. Les musiques partent, les gens réagissent pas parce qu'ils savent pas c'est qui.
Puis là, visuellement aussi, hein, avez-vous remarqué, on aurait dit que les filles ont acheté du tissu en bulk, là. À un moment donné, là, je veux dire, les roses fluo, puis les jaunes fluo, puis les bleus turquoise, à un moment donné, là, les coordonnez-vous, les filles, là, parce qu'à un moment donné, vous avez de l'air toutes de porter sensiblement la même palette. Là. Fait que dans le ring, des fois, ça, tout le monde a de l'air pareil. Là. Puis ça, c'est dangereux. Là. Ceux qui ressortaient le plus, là, c'était Piper Nevin, Nikki Cross, des filles qui... Tu sais, là, je pense que c'est important autant pour les hommes que pour les filles. Si tout le monde est sur le même moule, c'est mortel, là, parce que c'est interchangeable, puis nobody's gonna care. Là.
Je veux même pas qu'on parle du show de musique, parce qu'on a tous, on a tous détesté ça.
Mais ça fait pas de sens.
Même la haute direction de la WWF a détesté.
Exactement.
Mais ça fait pas de sens.
Ça fait juste pas de sens.
Je comprends pas qu'est-ce qu'ils me font.
Non.
C'est quoi, je l'aurais fait?
OK.
Il est trop tard pour voir Hardy!
C'était tard dans le show. C'était très, très tard.
Sacrament, man!
C'était tard pour faire ça, puis je veux dire, Colin, on aurait dit qu'il savait pas chanter. Fait que...
Non, mais il voulait pas. Lui, il voulait pas être là.
Parlons du moment qui nous a émerveillés, qui a été tellement, tellement bon. Roman Reigns qui bat Kevin avec le babyface turn de Sami Zayn. Moi, je trouve que ça a été joué à la perfection par Sami, par Kevin, par Roman, par tout le monde impliqué là-dedans. Jey Uso était parfait dans ce rôle-là. Moi, j'ai dévoré ces minutes-là.
Écoute, on peut peut-être dire que c'est une des meilleures storylines week to week, build to build, depuis peut-être même Hogan puis André de WrestleMania qui était vraiment...
Hogan Savage.
Ou Hogan Savage, de ces deux années-là, c'était des années où chaque semaine faisait du sens, puis chaque semaine nous construisait vers le moment. Et jusqu'à date, ils nous ont donné cette histoire-là. Au point que moi, personnellement, j'aurais été partisan d'essayer d'étirer encore un peu plus, puis de peut-être garder ce moment-là pour Montréal. Mais, je veux dire, tu peux pas critiquer. Là, ça devient un choix de quand et comment. Là, on va faire confiance qu'on sait où on s'en va avec ça. La réaction du coup de chaise de la foule est notable.
Mais pas juste ça, le fuck you Roman, là.
Ouais. Bully Ray, il a dit que c'était un Road Warrior Pop, je pense.
Ouais.
Et je pense que, je veux dire, il n'y a pas plus beau, plus grand compliment que tu peux faire dans le monde de la lutte que d'avoir un Road Warrior Pop. Là. Donc, à partir de là, je veux dire, sky's the limit. Là. Tout dépendant comment on va jouer nos cartes. Là c'est la grosse clé. Là. Est-ce que c'est un cas de Daniel Bryan où on est mi-figue, mi-raisin, parce que c'était pas notre idée à la base d'aller aussi loin que ça avec Sami Zayn. Puis on va être entre les deux, entre la chèvre et le chou ménager avec Cody Rhodes et compagnie. C'est à voir.
Je pense que l'emplacement dans le show fait en sorte que on nous explique vraiment qu'est-ce qu'on veut faire avec Sami Zayn, puis qu'est-ce qu'on veut faire à Montréal, I guess, avec Sami Zayn. Je pense que c'est pas pour rien qu'ils ont séparé les deux autant. Et oh, c'était de l'art, là.
Ah, oh, c'était beau.
C'était artistique. Tu sais, c'était pas genre juste... C'était pas genre juste bon à regarder, c'était bien ficelé.
Ben le fait qu'on ait attendu, que Sammy ait attendu aussi longtemps avant de le faire, je trouve qu'on l'a, tu sais, en anglais, on va dire, on l'a milké, là, tu sais, on a été chercher, là, il va-tu le faire? Ah, il le fera pas. Ah oui, il va le faire. Oh, je sais plus. C'était un moment, là, d'anthologie pour moi, ce segment-là.
Puis tu sais, au-delà de ça, là, moi, de voir Jay quitter comme il a quitté. Oh. Paul Heyman, là, c'est le gars... Paul Heyman, là, il mérite des fleurs. Là. Puis Solo mérite des fleurs. Puis tu sais, les super kicks à répétition, je trouve qu'il y avait tellement de détails, puis tellement de soins, puis tellement de tout. Man, moi, je suis aux anges de ce segment-là. Puis pour moi, c'est top 3 des meilleurs feuds de mon existence à moi, là, que moi, j'ai vu. Là. C'est top 3, là. Genre 9 mois, là.
C'est parce que Moi, ce que ça prouve, là, c'est que parfois, dans la lutte, il faut que tu donnes le temps à quelque chose de prendre son élan. C'est vrai dans n'importe quel storytelling. Là. Il y a des fois, tu sais, on n'est pas patient. Puis là, on tire la plug sans qu'on se soit donné le temps. Parce qu'au début, là, quand Sammy est arrivé avec le Bloodline, c'était même pas prévu pour être long comme ça. Là.
Non.
On leur a donné assez de temps, ils ont percé. Puis plus qu'on leur en a donné, plus que ça a pris de l'ampleur. Là. Et on savait tous qu'au final, il fallait que Sammy quitte. Là. C'était ça le punch là, à la fin. On le savait tous que ça arriverait un jour. Mais on nous a amené à « C'est-tu là? C'est-tu pas là? Il va-tu le faire? C'est-tu le temps? » Puis là, je veux dire, la réaction sur Roman aussi, là, parce que là, ça a fait de Roman un vrai heel là-dedans, là, parce que là, c'est lui qui est pas correct envers Sammy que tout le monde aime.
Puis Kevin le a été, en anglais, c'est « selfless », là.
Oh, il lui
a été généreux de sa personne.
Il a été généreux de sa personne, parce que pour de vrai, là, yo, ce gars-là, pas juste dans le beatdown, dans le match. Si Kevin ne prend pas autant de coups dans le match, les gens commencent pas déjà à turn sur Roman.
J'étais tellement déçu quand il a manqué son moonsault, son springboard moonsault qui glisse. Non, mais tu sais, c'est juste que lui, j'imagine qu'en dedans lui, que la tabarnouche, mais tu sais, il est revenu, il a pas fait exactement le même move, il a fait d'autres choses, puis il a juste fait un moonsault normal après, puis ils sont revenus dans le match, c'est correct. Mais t'as raison, il s'est donné à 100%. T'sais, on parle beaucoup de Sammy dans cette histoire-là.
Mais je trouve qu'il s'est donné pour Sammy.
Ben oui.
C'est Kevin joue une grosse partie du fait que Sammy est méga over, puis je pense que les gens lui donneront pas les fleurs qu'il mérite.
Pis ça commençait avant même le show. Il est arrivé avec un t-shirt de Sami Zayn Forever. Ouais. Tu sais, c'est déjà là que sa psychologie à Kevin a embarqué dans le show.
Il y a un auditeur qui m'a écrit un message. En tout cas, je me rappelle pas le nom du patinel, mais le nouveau t-shirt de Sammy, le tape.
Ah oui,
c'est le tape de Kevin Owens.
Il m'a envoyé un message, moi aussi. Le nouveau t-shirt, ça dit au lieu de Sammy Ousso, c'est marqué Zayn, puis c'est le même tape que Kevin avait, pis, son t-shirt d'NXT.
Puis j'espère qu'à Montréal, j'espère que WWE est assez intelligent pour faire un t-shirt style Mega Powers à Kevin puis à Sammy pour quand ils vont être à Montréal. Je peux pas concevoir qu'il n'y aura pas la face de ces deux patinets-là sur un t-shirt dans 3 semaines.
Ça, je peux pas te le dire, mais moi, j'ai vu les prototypes de t-shirt de Kevin pour Montréal, puis ça va être fou. Mais il y avait pas ce t-shirt-là, mais est-ce que depuis, ça a changé ou il y en a eu d'autres, je ne sais pas. Mais ceux de Kevin pour Montréal vont être fous, par contre. Ça, je peux déjà vous confirmer ça. Rapidement, au niveau business, ça a généré là, des revenus records, 7,7 millions de ventes de billets. C'est plus que 50% du record précédent. 52% plus regardé en 2023 que le record de 2022. Ça a été un gros événement. De l'argent, là, il en pleut là, à la WWE avec les commandites Mountain Dew, Applebee's, avec le petit couple Tim Hortons de Seth Rollins et Becky Lynch. Ça a été vraiment, c'est au niveau monétaire, un gros événements. 1 million de vues sur YouTube pour Ricochet et Logan Paul. T'en parlais tantôt,
Kev. Man, moi, Foot Catherine m'a l'envoyé.
2,3 millions sur YouTube pour Zayn Roman, le segment de la fin. Mais sur toutes leurs plateformes, on parle de 20 millions et plus pour les deux pour les deux là, séquences, là, aucun Ricochet, Logan Paul que Zayn et Roman. Donc ça a suscité beaucoup, beaucoup d'intérêt, le Royal Rumble. Bon, je parlais tantôt qu'il y avait des matchs qui s'étaient créés de ça. La carte de WrestleMania, là, dites-moi là, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai noté à tout le moins. On a Roman et Cody Rhodes, ça c'est canné. On a Rhea et Charlotte, ça c'est canné. Bianca Belair et Asuka slash Kana, donc ça semble s'en aller vers ça. Kevin et Sami contre les Usos. Brock contre Bobby Lashley. Omos contre Braun Strowman. Cena contre Austin Theory. Et Ray contre Dominic ou un multi-man.
C'est Ray contre Dominic.
Ou un multi-man avec du monde de chaque côté.
C'est Ray contre Dominic. Juste
Ray avec Edge, là, surtout si Ray est encore blessé. Là, ça se
ah, mais c'est ça. Si Ray est en santé, c'est Ray contre Dominic, masse contre coupe.
Et ça, là, ça laisse Becky et Bayley où là-dedans? Parce qu'on a déjà eu un cage match, puis on va en avoir un deuxième cage match.
Moi, je pense que ce feud-là est terminé. Là.
Donc, ça laisse Becky et Bayley où dans ce portrait-là?
Ben, à un moment donné, il va falloir quelqu'un gagne les titres par équipe, là.
Championnat par équipe.
Fait que, mettons que
mais Becky avec qui?
Ah.
Puis ça l'exclut Bayley de l'équation, les championnats par équipe.
Effectivement.
Fait que, tu sais,
question se pose. Je pense qu'ils vont avoir un problème de comment causer certaines personnes.
Parce que c'est deux des meilleures lutteuses de la compagnie, puis là, on semble rien avoir pour WrestleMania.
La bataille royale féminine.
Le Rock, je pense que c'est déjà réglé. Il devrait pas être en. Ouais. En fait, Le Rock et Steve Austin, c'est réglé. S'ils sont là, c'est pas dans un match, c'est dans un angle où, tu sais, on a déjà vu quelqu'un arriver puis juste faire un stunner, tu sais, puis that's it.
En Nouvelle-Orléans.
En Nouvelle-Orléans, c'est ça. Mais je ne pense pas qu'on va les voir lutter, mais est-ce qu'ils vont être présents? Ça, c'est très possible. Mise à jour pour Montréal, on a pour le SmackDown 13 051 billets de distribués. On a ajouté 1000 billets on a ajouté 1000 billets à la capacité. Donc, c'est sur une capacité de 14 010 billets. Il en reste 959. Elimination Chamber, c'est 13 472 sur la même capacité. Donc, il en reste 538. Si on n'est pas sold out, on va presque l'être à guichet fermé pour les deux événements. C'est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment cool. Et là, à date, on a quoi? Ben, on a l'Elimination Chamber pour le titre US. Austin Theory, Seth Rollins, Bronson Reed, Montez Ford qui va affronter Elias à SmackDown vendredi, ça devrait être Montez Ford. Ouais. Damien Priest va affronter Angelo Dawkins, donc je pense pas que Dawkins va passer.
Non, ça
veut dire qu'on commence un push ensemble pour Montez Ford.
Oui, 100%.
C'est une bonne nouvelle. Donc, ça s'enligne pour être quand même un Elimination Chamber qui va être le fun à voir,
je pense.
Bert?
Ben, on manque un peu de star power dans ce match-là, mais clairement, le main event, ça va être le combat de championnat.
Ouais, ben, c'est ça, exactement. On a quand même Seth Rollins, Austin Theory qu'on essaye de pousser, Montez Ford qui est populaire, mais je comprends ton point. Mais on a tellement un main event qui va être fort, surtout pour Montréal, avec Roman et Sami, qu'on peut se permettre, je pense, d'avoir un chamber un peu moins fort. Du côté des filles, ça va être un Elimination Chamber pour affronter Bianca Belair. Donc, on a Raquel Rodriguez, Asuka, Liv Morgan, Nikki Cross. Et ben là, on va avoir la gagnante de Mia Yim, Piper Niven, Candice LeRae et Carmella. Puis on va en avoir une autre. Mais comme on a parlé tantôt, ça risque d'être Asuka. Est-ce qu'on va avoir un 3 contre 3 peut-être? Edge, Beth Phoenix, puis Rey Mysterio contre Balor, Dom, puis Rhea. Moi, je pense que ça pourrait aussi s'en aller après ça vers WrestleMania. Mais je dirais, Beth est là deux fois en trois jours. C'est sûr que il faut que tu lui donnes quelque chose à quelque part, là, je pense. Puis je pense qu'on s'enligne vers un 3 contre 3. Et selon ce qu'on a entendu, Brock serait au chaud, mais il n'est pas cédulé pour l'instant, mais il est supposé être au chaud.
Okay.
On a quand même quelque chose de solide.
Moi, je trouve que c'est un excellent show.
On a quand même quelque chose de solide, je pense. Bert, d'accord avec ça?
Oui. Mais, je veux dire, on est habitué d'un Elimination Chamber avec un petit peu plus de poids dans la balance que le championnat des États-Unis. Là.
Mais c'est parce qu'ils vont mettre le. Tu sais, dans le sens qu'ils vont. Les deux titres sont sur un patinet, puis ils vont être en jeu pour le main event. So.
Mais on a rarement une situation où il y a un gars dans le main event qui va affronter le champion et qui va recevoir un pop comme on va rarement avoir attendu dans nos vies.
Oui, non, effectivement.
Écoute, Bertrand, un gros merci de t'être joint à nous pour parler du Rumble, parler des shows à Montréal. C'est toujours bien plaisant. T'es en demande. On a souvent des demandes pour t'avoir, donc on va te reparler très bientôt, mon cher, et un gros merci de nous avoir partagé tes opinions.
Merci à vous autres, puis bonne fin de podcast.
Ben, ciao, thank you. Mon gars. Lutte québécoise.
Lutte québécoise. On recommence.
Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Lutte québécoise, Kev, c'était à la publication de les prix de l'année dans la lutte au Québec en 2022. Alors, je veux faire rapidement, au moins mentionner les gagnants de chaque catégorie. Vous irez lire mon blog sur le tvasport.ca pour en savoir davantage. Meilleur lutteur de l'année, t'as-tu vu les prix, Kev, en diagonale?
Ouais.
Le lutteur de l'année, évidemment, c'est sur le circuit indépendant seulement, donc les Kevin Owens, Sami Zayn et compagnie ne sont pas considérés dans les différentes catégories, mais c'est plus que juste ce qui se passe au Québec. Un Québécois qui performe sur le circuit indépendant à l'extérieur, faut aussi considérer ses exploits-là. Alors, sans surprise, le lutteur de l'année, pour une troisième année consécutive, je crois, Mike Bailey.
Yeah, mais lui c'est triché un peu, là.
Hein?
Parce qu'il est à Impact.
Ce qui fait à Impact ne compte pas, mais moi j'ai vérifié. Il a fait sur la scène indie, là, c'est incroyable ce qu'il a fait sur le circuit indépendant. Il a lutté dans un paquet d'états, GCW, il a fait plein d'indies, il a été pour Ref Pro, il a fait la finale du PWG en 2022, du Bola.
J'amenais juste un point. Absolument. Que les gens se disent peut-être.
Non, ce qui fait à Impact ne compte pas dans le processus. PCO a terminé deuxième, lui aussi, ce qui fait à Impact, ça compte pas. Mais il a fait énormément d'indies, PCO, également en 2022. Et troisième, Marco Estrada, qui était un peu la thématique des prix de l'année, c'est-à-dire Marco Estrada et ses chums, Kevin Blanchard, Matt Falto, Mac Angel et Benjamin Toll, qui d'ailleurs le suivent dans le classement des meilleurs lutteurs québécois. Mathieu Saint-Jacques, Thomas Dubois et Yvo Luneau ferment le top 10. Lufisto a remporté pour la 16e fois en 20 ans le prix de la meilleure lutteuse au Québec. Lou O'Farrell, ta préférée, une de tes préférées, Kev, qui a fini deuxième. TDT, pour la 10e année consécutive, a été voté équipe de l'année au Québec. Alors, grosse performance encore de Mathieu Saint-Jacques et Thomas Dubois. Le match de l'année, Marco Estrada contre Matt Angel, contre Matt Falco, contre Kevin Blanchard à la IWS au mois de mars. Un petit peu ironique que ces quatre gars-là aient même pas commencé l'année à la IWS, mais ça a été le match de l'année et c'était du côté de la IWS au mois de mars. Thomas Dubois et Twiggy, la rivalité de l'année du côté de Battle War. Marco Estrada, le plus populaire, Twiggy, le plus détesté. Yane Harrison, un jeune début vingtaine qui a été nommé recrue de l'année et lui aussi, un peu à l'instar de Zach Patterson l'an dernier, veut faire de la lutte son métier. C'est un gars de 6 pieds 5 qui a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Alors, on lui souhaite bonne chance. Claude Maloon a été voté la personnalité de l'année. C'est-à-dire tous ceux qui sont pas lutteurs, annonceurs, commentateurs, animateurs, gérants. Et Kev, t'as fini deuxième.
Not bad, eh?
T'as fini deuxième, ton meilleur classement dans cette catégorie-là. Not t'as bad. Eu beaucoup de support. J'étais bien content. Minoru Suzuki, l'invité de l'année. Il a fini devant Jay White. C'était les deux, c'était un A, un B, on pouvait pas se tromper. Ouais. NSPW, la promotion de l'année pour, je crois, une 12e ou 13e année consécutive. Mike Bailey a remporté le prix Édouard Carpentier pour le meilleur lutteur d'Haute Voltige. Claude Maloon, le prix Eddie Creechman pour le meilleur au micro. Golden Opportunity 12 au Stade Canac devant plus de 1300 personnes. L'événement de l'année au Québec. Michael Bisson, le scripteur de l'année. Et de façon unanime, le seul prix qui s'est soldé par un vote unanime des 21 personnes qui ont voté cette année, les Antipodes de la lutte, meilleur podcast au Québec.
Yes!
C'est la troisième fois qu'on gagne en trois ans, mais c'est la première fois que c'est unanime, et ça, ça m'a moi-même surpris. Alors, merci beaucoup, puis je veux quand même faire un gros shout-out aux autres podcasts qui ont terminé dans les finalistes. C'est juste de la lutte. Soyez-y, mesdames, messieurs, notre ami Marc Blondin, la prise de l'ours du côté de Matt Angel et du Saguenay. Donc, nouvelle de l'année, c'est la seule catégorie où on parle aussi des Québécois qui nous représentent à l'international, du côté WWE, AEW et tout, puis évidemment, la nouvelle, ben, c'est Kevin Owens qui fait la finale de WrestleMania contre Stone Cold Steve Austin. Alors, vous irez lire, sur le tvsport.ca pour en savoir davantage sur les 19e prix de l'année prochaine. 20 ans déjà, j'en reviens pas. Je vais peut-être avoir quelque chose de spécial pour les 20 ans. T'avais une question sur Twitter, Kev, Martin Aloulou qui nous demandait, est-ce possible de vivre de la lutte en 2023 avec juste du booking? Et la réponse à ça, c'est non. Tu disais, ça serait intéressant qu'on en parle sur le podcast. La réponse à ça, c'est non. C'est pas possible de vivre uniquement avec du
mais c'est comme un humoriste qui commence, là. T'sais, moi, je les compare souvent les deux, là. T'sais, tu fais de ville en ville, de booking en booking.
Mais à la différence qu'à un moment donné, un humoriste peut en vivre au Québec à remplir des salles.
Quand il devient établi.
Oui, exactement.
Mais je comprends ce que tu veux dire.
Tandis qu'au Québec, même si tu es établi, tu pourras pas en vivre si tu restes au Québec. Faut absolument que tu ailles aux États-Unis ou que tu ailles en Europe ou au Japon ou au Mexique. Ouais. Faut que tu voyages, faut que tu luttes énormément aussi sur le circuit indépendant pour faire un salaire qui est décent.
C'est un risque aussi, là, tu sais, quand t'es pas avec une grosse compagnie, mais quand tu te blesses, des fois, c'est compliqué des fois.
Ah ben, si t'es lutteur indépendant puis tu te blesses, t'as juste pas de revenus. Si tu luttes pas, t'es pas payé. Donc, c'est là des contrats garantis avec Impact, AEW, WWE, ben c'est là ça avantageux, contrairement à faire le circuit indépendant. Je veux mentionner, MEW fait une évaluation de talent le lendemain du Elimination Chamber, le 19 février, avec TJ Wilson, qui va être là, l'ancien Tyson Kidd, qui est un des producteurs agents à la WWE. 2 heures de séminaire ou d'évaluation de talent, si vous voulez, pour $100. Donc, aux lutteurs, lutteuses intéressées, c'est du côté de la MEW Main Event Wrestling. Allez visiter leurs réseaux sociaux pour en savoir davantage. Et oubliez pas 3 secondes. Hein? T'étais encore très présent cette semaine, je crois, dans le...
Je l'ai pas vu.
Dans le documentaire, mais non, moi non plus, je l'ai pas vu, celui de cette semaine. Mais
je vais toutes les écouter d'une shot, c'est certain, là.
Ah, t'as pas encore commencé à l'écouter.
Mais j'ai pas eu le temps.
Ah, ben non, mais c'est pas grave. Mais c'est vraiment bon, je reçois d'excellents commentaires. On s'en va au Japon. Grosse nouvelle, Kev!
Yo, j'ai caca de l'eau. Oh my God! Ça se peut, je texte jamais Speedball.
Mais attends, la grosse nouvelle, c'est pas Speedball. La grosse nouvelle avant, c'est que Kota Ibushi et New Japan, c'est fini.
Ok, mais moi je m'en fous de ça.
Mais
c'est pour ça qu'ils servent aux États-Unis.
Un arrive pas sans l'autre.
Mais moi ce qui me ferait, parce que moi je savais que ça allait être fini. S'il y a aucune chance qu'ils reviennent de l'arrière après tout ce qui s'est passé.
Son contrat s'est terminé le 31 janvier. Exact. Et il n'a pas re-signé avec New Japan.
C'était une question de temps avant que. Bon, maintenant, là, la vraie question, c'est quand qu'on va le voir à AEW, là. Mais
oui, exact.
Je serais même pas surpris qu'on le voit tantôt. Tony Khan a besoin d'un flash, là.
AEW, qui d'ailleurs aujourd'hui a annoncé, tout dernièrement a annoncé qu'ils commençaient leur house show, commençaient les shows non télévisés le 18 mars. Donc, ils vont avoir besoin, ben, en fait, c'est bon. Ils vont pouvoir faire lutter leurs lutteurs plus souvent. Continue. Donc.
Mon point, là, c'est que ça, c'est énorme.
Oui.
Parce que je pense pas qu'ils vont en faire beaucoup aux États-Unis des matchs hors d'une grosse compagnie, là. Fait que Speedball soit en mesure de l'avoir, ce match-là?
Ça va être le 30 mars. C'est Josh Barnett's Bloodsport 9. Et ça va être Ibushi contre Bailey.
Oh, caca sous moi!
Et le lendemain, c'est sûr qui Mike Bailey affronte? Au Janela Spring Break? L.I.O. Del Vinquinho. Je veux dire, t'as potentiellement deux matchs
de l'année
back to back. Et cette valeur, le 31 mars, c'est le vendredi à 8h. On va être à SmackDown. Mais le 30, le jeudi, pour Ibushi, ben, on n'a rien d'autre le jeudi.
Non. Regarde. Moi, je vais l'ender le matin.
Oui.
Regarde, c'est quand WrestleMania, c'est le 1?
C'est le 1 et 2.
Je vais mettre une note caca sous moi.
Mais pour le 30, oui, exactement.
Mais tu vois, j'ai tout bloqué, je suis bon.
Mais le 31, c'est sur Fight.tv, donc c'est, on va pouvoir l'écouter par la suite. Mais moi, c'est un match aussi qui m'intéresse, Bailey.
C'est juste que Bloodsport, je suis pas un fan de tout.
Ben, moi non plus, mais pour ce match-là, ça vaut la peine.
Ouais.
On va s'en aller avec les coups de cœur. OK. Dynamite. Mark Briscoe, Jay Lethal.
Oh, wow, c'était tellement spécial.
Qui finit ça avec le J-Driver, la manœuvre de finition de son frère. C'était bon, c'était touchant. Tu sais, à la fin, là, tout le monde sur le stage.
Ouais.
Tu sais, moi, j'ai vu, là, tu sais, des visages des fois moins connus des gens. Le BJ Whitmer était là, Jeff Jones, évidemment, Christopher Daniels, Sanjay Dutt, Samoa Joe. Tu voyais l'émotion, dans les gars. Tu sais, c'était
au-delà de la lutte. Puis je suis content qu'il y ait personne qui a joué des personnages. Tu sais, c'était une célébration. Puis c'était spécial.
C'était vraiment, vraiment spécial. Puis j'espère qu'on va permettre à Mark Briscoe de lutter davantage.
Mais il semblait dire que c'était correct. Ouais. Là. Parce que c'est pas lui qui a fait les tweets.
Moi, j'ai un de mes amis qui n'avait jamais vraiment vu les Briscoes. Il connaissait le nom, mais il suit un peu moins le circuit indépendant. Et il a vu Mark Briscoe. Il a dit, crème, il est bon, Mark Briscoe.
C'est fou, hein?
Ben, tu sais, c'est ça. Tu sais, après 20 ans, on découvre. Il y a un nouveau public qui va découvrir Mark Briscoe.
Puis, tu sais, le eulogie aussi qu'il a fait à l'enterrement, le speech qu'il a fait dans la. Tu sais, c'était spécial.
J'ai adoré, puis tu l'as peut-être pas vu, là, mais si vous avez une chance, Jamie Hayter contre Emi Sakura à Rampage.
Ah, j'ai pas eu le temps.
C'était excellent. Meilleur que la majorité des matchs féminins que j'ai vu à Dynamite récemment.
Damn!
Dexter Lumis, là.
Ça a rien.
Y a-tu vraiment sorti une vraie hache? Moi, ça m'a fait rire.
J'ai mis mon écouteur, mais ça m'a fait rire. Pour vrai, man. T'es un fuck-all, là. C'est comme pour vrai, là. Les deux ensemble, man. Deux estites perdus, là. Tu m'as-tu vu dans mon story Instagram dans la forêt en ski? Comment j'avais l'air perdu pis inutile?
Ouais.
Ça, c'est Dexter Lumis.
Hey, Travis Kelce.
Yo, il a cut la promo de sa vie, là.
Il a fait un Know Your Role and Shut Your Mouth, You Jabroni. Non,
tu l'as-tu vu hier?
Wow.
J'ai mis dans la story de sa restriction, mais I guess quand vous allez entendre le podcast, ça va être fini. Mais il reçoit une ovation et il se lève comme The Rock au ralenti, puis il regarde à gauche, il regarde à droite, puis là, c'est moi, je dis.
Clairement influencé par Dwayne Johnson, ça m'a fait beaucoup rire.
Donnez-moi un match Kelce contre Paul, je vais le prendre.
T'as-tu d'autres choses dans les coups de
temps? Non, on n'a pas le temps.
Ben non, mais t'as-tu d'autres choses?
Non.
Avertissement. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. Toni Storm, son histoire, là, c'est qu'elle traite celles qui viennent des EW, là, d'idiotes.
OK.
Et on monte une promo de ça juste avant son match contre Ruby Riott, qui n'est pas des EW. Et où la logique dans cette storyline-là?
Dans le fait qu'ils s'en calissent.
Hey, j'ai oublié! La montée de l'aide KR. Oui, on a le temps. La montée de l'aide KR. On a toujours le temps pour une montée de l'aide.
Hey, by the way, là, OK? By the way, à quel point le titre de AEW, là, quand tu deviens champion, ton booking devient over shit. Hangman Page, il était le gars le plus over de la compagnie. Il est devenu champion over shit. MJF, on le voit même plus. On le voit même plus. Il a cut la promo backstage. Il est venu faire les petits goumins, les petits bâtons. Je comprends pas comment AEW est pas capable de surfer sur la vague de Patnaik qui est over. Va en Californie. Va prendre des cours. Fais quelque chose. Ça se peut pas. Comment le gars était méga over, puis là, MJF, on se rend même pas compte qu'il est même pas là. Puis quand il est là, il est irrelevant. La promo était bonne, le cas sur Ellen DeGeneres puis l'autre partner vieux, là. Mais à la fin de la journée, je trouve que quand les boys deviennent champions, on se fie trop à ce que la ceinture va faire en sorte que quand ils apparaissent, le segment est irrelevant. Et c'est faux. On l'a vu avec Hangman Page, on l'a vu avec John Moxley, puis là, on le voit avec MJF. That's it.
On revient, j'adore ta montée de là, on revient dans les avertissements. Quand ils ont annoncé que Ricochet, que Braun Strowman, il y aurait un partenaire, tu sais, l'équipe de remplacement, là, parce que Drew et Sheamus se sont disqualifiés du tournoi. C'est-tu Drew et Sheamus qui se sont disqualifiés du tournoi?
Les Banger Bros, qui ont changé le nom des Banger Bros parce qu'ils ont enfin Internet.
Quand ils ont dit que Braun Strowman aurait un partenaire, moi, tout de suite, j'ai pensé que c'était Nicolas qui était pour arriver. Il est rendu à 15 ans, le petit Nicolas.
Yo, ça, j'arrête pas.
Ça, j'aurais trouvé ça drôle.
J'aurais pop, puis peut-être plus que l'affaire de Sammy.
Quand Jay appelle Sammy à SmackDown, fais un vrai appel, dude. Ton sel, il est noir, là.
Non, mais.
T'en fais pas d'appel.
Mais oui, quand tu parles, ton sel est noir.
Non, non, mais il était noir du début. Non, ton sel est pas noir.
Quand tu parles, ton sel est noir.
Non, tu vois. Ben non, parce que tu peux raccrocher. Il y a un piton rouge pour raccrocher. Non,
mais c'est quand tu l'enlèves de ton oreille que tu ça l'apparaît. Mais quand tu le colles à ton oreille, ton sel est noir.
C'est vrai, il y a un sensor.
Ah, pour vrai? T'es sérieux, Fred? Ben,
comment, Fred? Ben, c'est moi!
Toi, je te crois pas. T'es sérieux, Fred?
Ben oui!
Ben oui, essaye avec ta main, voir.
Ben, je vais l'essayer plus tard.
Parce que moi, ça me faisait chier quand j'écoutais les séries.
Ouais.
Puis là, j'étais comme. Puis là, à un moment
donné. Ok, mais t'as déjà pensé ça, toi aussi?
Ben, je me suis informé avant de chialer publiquement.
Bon, mais j'ai chialé publiquement sans m'informer. Le Miz, là, s'est rendu la bitch de service.
Ben oui.
Un stunner avec deux stunners avec KO, il perd contre Rick Boogs.
Ouais, mais le Miz, il peut perdre pendant 100 semaines de suite.
Je comprends, mais...
Il est au micro, il va être le gars le plus over pareil.
Becky Lynch, c'est mon dernier avertissement, là, mais Becky Lynch qui s'en va backstage à Raw pour aller chercher Dakota Kai. Ça a pris 9 secondes qu'on n'a pas vu Becky. Fait qu'en 9 secondes, elle a trouvé Dakota Kai backstage.
Mais non, mais elle l'avait déjà battue. Elle l'avait laissée pour morte. Puis elle est allée la traîner puis la ramasser.
Mais qui nous a expliqué ça?
Ben yo, c'est la logique.
Ah oui, c'est logique qu'une babyface ait déjà battu une heel avant d'arriver pour faire une promo.
Ben s'ils sont 3 contre 1 à chaque fois, elle a éliminé une.
Hey!
Elle... Yo, là, j'arrête de décortiquer tes avertissements.
Non, mais à un moment donné, non, mais ça n'a pas plus de logique. Pourquoi une babyface aurait attaqué une heel avant? Non, moi j'ai pas aimé ça. J'ai vraiment pas aimé ça. Le quiz. Je vais vraiment l'essayer à faire du sel, je suis pas sûr.
Hein?
Je vais vraiment l'essayer à faire du sel, ça me gosse.
Mais non, mais on est deux à te dire.
Ben vous.
Texte tes pattes et fous tes pattes. Fous tes pattes.
Il faudrait être 8000, là.
Fous tes pattes.
Hey, Jérôme Jacques, notre ami Double J, quelle est votre chanson d'entrée préférée de lutteur entre Demon in Your Dream de Rhea Ripley et Shatter de Bray Wyatt?
Ben, Shatter de Bray Wyatt est très nice.
J'avoue que la tune est nice. Avec qui aimeriez-vous voir Cody Rhodes avoir une rivalité entre AJ Styles ou Edge?
AJ Styles, ben oui, AJ Styles.
Kevin et Pat, vous êtes une équipe et l'un de vous devez faire un heel turn sur l'autre. Que faites-vous entre un low blow ou un coup de chaise dans le dos?
Ah, low blow. Moi, je suis sale de même, là.
Ah non.
Low blow avec mon pied, là. Comme
ah non. Moi, c'est la chaise. Moi, je vais te faire mal. Oh, moi, te faire mal.
Moi, c'est low blow.
Tu te relèveras pas.
Moi, c'est low blow.
Coup de chaise.
Low blow.
J'aurais une satisfaction, là.
Low blow.
Hey, c'est déjà tout. Ça a été un gros podcast avec le Royal Rumble. N'oubliez pas la Force de Montréal à Saint-Jérôme le 4 et 5 février. Venez nous voir en grand nombre. Au nom de Fred Poirier. Celui de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Achetez des billets pour les Antipodes Live aussi.
Yo, achète des billets.
Achète des billets. En veux-tu des billets? En veux-tu des billets? En veux-tu des billets?